Bonjour à tous, donc je suis Rachel Rumi, avocate au sein du cabinet As Avocat et responsable e-commerce. Le cabinet As Avocat, si vous ne le connaissez pas, donc on est situé à Paris. Le cabinet est spécialisé dans tout ce qui est informatique et digital depuis 25 ans. On a effectivement un pôle IT avec un département e-commerce. On s'occupe également de toute la partie marketplace, plateforme, cybersécurité, propriété intellectuelle également avec la gestion des marques. Et un département contentieux. Ce matin, donc, je vais vous parler de l'optimisation de vos conditions générales de vente, qui est effectivement le document clé pour tout site e-commerce, que vous soyez dans une phase de lancement de votre site ou de révision. N'oubliez surtout pas les conditions générales de vente, c'est le document phare de votre site e-commerce. Donc ce matin, on va rester vraiment sur les aspects e-commerce du site auxquels vont s'ajouter naturellement la mise en conformité RGPD qui doit être aussi appliquée sur un site ou sur une plateforme en ligne. Ce matin, on va rester vraiment sur la partie CGV, mais n'oubliez pas également de bien penser à cette mise en conformité au regard de la loi informatique et liberté et du RGPD. Donc pour aborder l'optimisation de vos conditions générales de vente, après quelques éléments d'introduction, on regardera ensemble quelles sont les informations précontractuelles qui vont être obligatoires sur votre site internet et qui peuvent également figurer au sein de vos CGV. On se concentrera également sur le droit de rétractation qui fait partie des éléments impératifs lorsque vous êtes sur un site e-commerce. Et enfin, les dispositions clés de vos conditions générales de vente. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions au cours de la présentation à les poser. Donc rapidement, alors je pense que ce matin, on sait tous ce qu'est le e-commerce. C'est l'ensemble des transactions commerciales qui se réalisent via un site internet et qui impliquent un changement de propriété, c'est-à-dire soit la vente d'un bien, soit la fourniture d'un service. On est maintenant effectivement très habitué à ce type de transactions en ligne, qu'on soit dans les relations B2C, entre un professionnel et un consommateur, B2B entre deux professionnels, mais également C2C entre deux consommateurs, avec toute l'économie collaborative qui se développe. Si on se replace quelques années en arrière, ce n'était pas très évident pour tout le monde d'être derrière son écran, de se demander en rentrant ses coordonnées bancaires, est-ce qu'on allait oui ou non recevoir ce fameux produit. Maintenant, on est effectivement très habitué. En 2014, c'est la loi Hamon qui est venu protéger le consommateur dans le cadre de ses transactions sur un site internet, qui a été suivi par la loi Macron et par la loi pour une République numérique en 2016. La loi de 2016 est plutôt axée sur tout ce qui est opérateur de plateforme en ligne, à bien distinguer donc l'opérateur de plateforme en ligne qui va éditer des plateformes et notamment tout ce qui est marketplace, c'est-à-dire je mets en relation des vendeurs et des clients, mais je reste tiers à cette transaction. Là, ce matin, on va rester sur le site e-commerce. Donc, je suis e-commerçant, cybermarchand, et je propose mes produits ou mes services sur mon site. Quelques chiffres que vous pourrez retrouver sur le site internet de la FEVAD, qui sont les chiffres de juin dernier. Sur les aspects e-commerce, le chiffre d'affaires du e-commerce en 2019 s'est élevé à 92,6 milliards d'euros, donc une croissance de 13% en deux ans, avec 22% des transactions qui sont réalisées sur des terminaux mobiles. On se rend compte qu'il y a des domaines un peu plus phares sur les sites internet. En tête, on retrouve tout ce qui est habillement, mode, voyage, billets de train, billets d'avion, etc. Et on voit quand même qu'il y a certains produits qui ont du mal à être encore achetés via un site e-commerce, peut-être par crainte, notamment quand on voit lunettes, lentilles qui sont vraiment en bas de classement, le vin aussi encore qui est vraiment en bas du classement FEVAD et les médicaments qui restent aussi en bas du classement. Ce qui est intéressant, c'est de voir que effectivement, si le montant moyen d'une transaction sur un site e-commerce, ça a un petit peu baissé par rapport à 2017. On est à 61,50 €. Ce qui augmente, c'est le nombre de transactions en moyenne en ligne. Alors, je ne sais pas, vous, ce matin, si vous avez réalisé plus de 39 transactions sur l'année 2019 ou moins. Si on essaie de réfléchir, plus, hein. Ouais. En général, plus. Et ça continue d'augmenter. On va faire un petit peu de droit, mais je vais pas non plus vous lire le code de la consommation, mais en tout cas, vous pouvez retrouver toutes ces dispositions précises au sein des différents articles du code de la consommation. Tout d'abord, lorsque vous êtes e-commerçant, que vous lancez votre site internet et que vous vendez à des clients consommateurs, vous avez l'obligation d'indiquer certaines informations précontractuelles. Informations précontractuelles, c'est des choses que l'internaute doit pouvoir lire avant de passer sa commande, avant d'ajouter ses produits, par exemple, dans le panier. C'est les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix, la date ou le délai de livraison ou d'exécution du service, les informations qui sont relatives à vous, cybermarchand, coordonnées, postales, téléphoniques, et quelle est votre activité. On a également tout ce qui est mise en œuvre des garanties et conditions contractuelles lorsqu'elles existent, et les modalités relatives aux droits de rétractation. Ces informations sont souvent visibles soit sur les fiches d'information des produits ou services, soit au sein de vos conditions générales de vente. Là, on était vraiment dans le cadre des relations B2C. Donc, comme je vous disais, le législateur a toujours voulu protéger vraiment le client consommateur. Mais on voit que ces obligations se retrouvent petit à petit dans le cadre des relations B2B. Donc, concrètement, maintenant que vous vous adressez à des clients consommateurs ou des clients professionnels, vous avez quasiment le même type d'obligation en termes de droits et devoirs d'information. Concrètement, ça veut dire que les CGV vont être obligatoires. En B2C, ça, on le sait tous. Mais on a tendance à dire qu'elles le sont également dans les relations B2B, quand vous vendez à des professionnels, parce que de toute façon, vous allez être obligé à un moment ou à un autre de communiquer sur ces informations précontractuelles. Donc, soit vous vous organisez pour les mettre ailleurs sur votre site, soit les CGV restent quand même un des moyens, et peut-être le meilleur moyen, pour rassembler tous ces éléments sans perdre effectivement le client au cours de sa transaction. Ce matin, j'ai décidé d'axer cette présentation sur le droit de rétractation parce que vous soyez côté consommateur, mais surtout côté cybermarchand, c'est le droit, je pense, qu'on vous demande le plus de mettre en œuvre. Concrètement, qu'est-ce que le droit de rétractation? C'est le droit pour un client consommateur de changer d'avis sur sa commande sans avoir à se justifier. Et ça, dans les 14 jours. Alors, effectivement, on dit 14 jours. En réalité, on est sur 3 délais de 14 jours. Tout d'abord, le client reçoit son produit. Il a 14 jours pour communiquer au e-commerçant sa décision de se rétracter. Donc, on verra après, parce que vous allez devoir informer sur les modalités d'exercice du droit de rétractation, concrètement, comment je fais pour communiquer ma décision de me rétracter. Mais en tout cas, à partir du moment de la réception de la commande pour un produit, c'est 14 jours. Lorsqu'on est dans le cadre d'une prestation de service, c'est 14 jours à compter de la conclusion du contrat. Après, deuxième délai de 14 jours, le client vous notifie sa décision, démarre un nouveau délai de 14 jours pour renvoyer le bien. Et enfin, à partir du moment où vous, e-commerçant, vous recevez le produit qui est renvoyé, vous avez encore 14 jours pour pouvoir le rembourser. On va revenir après sur les modalités à prendre en compte. Donc, le droit de rétractation, oui, en B2C, il est obligatoire. Il y a quand même certaines exceptions. Vous pouvez les retrouver dans le code de la consommation. J'ai choisi de vous en exposer quelques-unes. Tout d'abord, si vous commercialisez des biens qui sont susceptibles de se détériorer rapidement. On pense à des produits alimentaires, par exemple. On va se dire, je ne vais pas pouvoir renvoyer des produits frais si je les achète, même en ligne. Effectivement, ça fait partie d'une des exceptions. Maintenant, il faut quand même être vigilant parce que la DGCCRF, donc qui est vraiment notre autorité de contrôle sur la partie e-commerce, dans sa doctrine, distingue différents types de produits alimentaires. Bon, je ne sais pas si certains d'entre vous sont sur ces marchés-là, mais en fait, vous avez donc les produits qui ont une DLC, donc c'est à consommer jusqu'à telle date. Effectivement, c'est notamment les produits frais, on ne peut pas se rétracter sur ces produits. Par contre, les dates avec une date de durabilité minimum, c'est-à-dire à consommer de préférence avant la DGCCRF s'est prononcée en disant que sur cela, on pouvait effectivement exercer son droit de rétractation. Si vous vendez du miel, par exemple, eh bien, vous devez prévoir le droit de rétractation pour vos clients consommateurs. Deuxième exception, on est sur le cas des biens qui sont personnalisés, qui sont confectionnés sur les spécifications de vos clients. Il y a pas mal d'exemples, mais quand on fait des albums photos sur Internet, effectivement, si on le reçoit et qu'il ne nous plaît pas, on ne va pas pouvoir le renvoyer parce que effectivement l'idée est quand même de protéger le consommateur. Mais pour le cybermarchand, il doit pouvoir recommercialiser le produit sur lequel le client a exercé son droit de rétractation. Donc si vous vendez des produits personnalisés, il n'y aura pas de droit de rétractation. Ensuite, on a le cas des services qui sont pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont vous renoncez expressément à l'exercice, vous faites renoncer expressément à l'exercice du droit de rétractation et vous demandez le commencement immédiat de la prestation. Là, l'exemple le plus parlant, c'est la location de vidéo à la demande. Vous êtes sur Orange, vous sélectionnez un film, on va vous demander de renoncer au droit de rétractation. Parce qu'évidemment, si on commence à le voir, comment on fait pour se rétracter par la suite pour le e-commerçant sur ses prestations de services? Impossible à mettre en œuvre. Par contre, si vous êtes dans ce cas-là et que vous proposez des services sur lesquels vous voulez exclure le droit de rétractation, il faut vraiment que le client renonce d'une part à exercer son droit de rétractation et accepte le commencement immédiat. Concrètement, c'est par deux cases à cocher, bien distinctes, où vous allez, ça va effectivement un petit peu alourdir le tunnel de vente, c'est ce qu'on nous dit souvent, nous, quand on émet ces recommandations-là, mais c'est la seule solution quand vous êtes sur des services pour pouvoir faire renoncer au droit de rétractation. Et ça, c'est des aspects sur lesquels, en cas de contrôle DGCCRF, ils sont assez vigilants, parce que ça se voit assez rapidement de voir est-ce que oui ou non on peut renoncer à son droit de rétractation. Donc faites attention à ce point-là si vous êtes concerné par des prestations de services. Et enfin, on a le cas de fournitures de biens qui ont été décelées par le consommateur et qui ne peuvent pas être envoyées pour des raisons d'hygiène ou de protection de la santé. On pense tout de suite à des produits cosmétiques, à des sous-vêtements. On a eu l'exemple dans la jurisprudence européenne d'un matelas. Alors, on était assez surpris. On était dans le cadre d'un matelas qui avait été décelé par le consommateur, essayé même. Donc là, on s'est tous dit, non, effectivement, il n'y aura pas de droit de rétractation par rapport à l'hygiène. Et la Cour de justice de l'Union européenne a dit que si, parce que, en justifiant que si vous allez dans un hôtel, bah, vous êtes sur le matelas de quelqu'un d'autre, que le matelas peut être nettoyé et que, encore mieux, il y a même un marché des matelas d'occasion. Donc oui, si vous vendez des matelas, même si les clients les ouvrent, les essayent, ils pourront se rétracter. Vous êtes e-commerçant, qu'est-ce que vous devez indiquer précisément dans vos conditions générales de vente et sur votre site internet concernant l'exercice du droit de rétractation? Parce qu'effectivement, vous avez l'obligation de le mettre en œuvre, mais également d'indiquer tout un tas d'informations. Donc tout d'abord, c'est bien mentionner de manière claire, lisible et compréhensible et pas caché en tout petit qu'il existe le droit de rétractation avec les trois délais de 14 jours. Comment je peux faire pour exercer mon droit de rétractation? Donc pour ça, vous avez l'obligation de mettre à disposition un formulaire type de rétractation, mais également vous pouvez proposer de communiquer cette décision par mail ou par courrier. Mais en tout cas, n'oubliez pas de mettre bien ce formulaire type de rétractation sur votre site internet. Ensuite, si vous êtes dans le cadre d'une exception au droit de rétractation, vous devez quand même indiquer qu'il existe ce droit, mais que dans votre cas, il est exclu, et de mentionner cette exception. Quand vous êtes dans le cadre de la vente d'un produit, il faut mentionner si oui ou non le client doit prendre en charge les frais de retour. Lorsque vous êtes cybermarchand, vous avez un client qui exerce son droit de rétractation, vous le recevez, vous devez lui rembourser le prix du produit et les frais de livraison, donc lorsque le bien a été livré chez lui. Par contre, les frais de renvoi du bien ne sont pas automatiquement à votre charge, vous pouvez les laisser à la charge du client consommateur. Dans tous les cas, il faut être extrêmement clair de savoir est-ce que les frais de renvoi sont à la charge du client ou à votre charge en tant qu'e-commerçant. Sur la partie prestation de service, je ne sais pas si vous êtes beaucoup concerné par ce cas, mais si vous voulez mettre en œuvre le droit de rétractation, il faudra bien indiquer que si le service a commencé, on pourra se rétracter, si on n'est pas dans le cas d'une exception, mais le client devra quand même payer au prorata le service qui a été délivré jusqu'au jour de sa décision de se rétracter, à indiquer aussi de manière assez claire sur votre site. Donc les exceptions, on en a effectivement déjà parlé, et toutes les informations qui sont relatives à vos coordonnées. Attention, parce qu'au-delà des sanctions financières et administratives, s'il manque ces informations sur votre site e-commerce, le délai de rétractation n'est plus de 14 jours, mais de 1 an. Donc, par exemple, alors on va dans l'extrême, mais pour avoir vu certaines pré-injonctions de la DGCCRF qui sont de plus en plus courantes en ce moment, on passe par différents stades, hein. Vous ne recevez pas tout de suite une sanction, mais si vous recevez une pré-injonction de la DGCCRF, mettez-vous en conformité immédiatement. S'il n'y a pas le formulaire de rétractation sur votre site internet, moi je suis client consommateur, je peux me rétracter pendant 1 an. Donc attention à ces aspects-là. Maintenant, dans les dispositions effectivement plus générales à prévoir dans vos conditions générales de vente, comme je le disais, les CGV sont effectivement le document phare de votre site e-commerce. Elles vont permettre tout d'abord d'indiquer quel est le processus de commande. Dans un premier temps, comment je conclue le contrat ? Donc, les CGV vont être le contrat que vous aurez pu conclure dans le cadre d'une vente physique et qui encadre la transaction. Donc, comment je fais pour commander mon produit, pour réserver ma prestation de service ? Quelles sont les étapes pour aboutir au paiement de mon panier ? À quel moment est-ce que je peux corriger mon panier ? Est-ce que si je laisse un produit dans mon panier, que je vais sur une autre page, est-ce que je vais recevoir quelques heures après un petit mail me rappelant que j'ai oublié quelque chose dans mon panier ? Tout ça, c'est des informations qu'il faut prévoir dans les conditions générales de vente. Au même titre que les langues qui peuvent être utilisées pour conclure le contrat, les modalités de l'archivage du contrat et, selon vos secteurs d'activité, les règles professionnelles qui vont être applicables. Autre point clé des dispositions de vos conditions générales de vente, tout ce qui concerne le paiement. Quels sont les modes de paiement qui vont être disponibles sur votre site internet ? Si vous n'êtes pas en mesure de déterminer ces modes de paiement, il faut à minima renvoyer vers une page de votre site internet qui précise ces modes de paiement. Quel est le montant des frais de livraison ? Indiquer que les frais de livraison sont effectivement en plus du prix du produit. Quels sont, on voit très souvent, au-delà de X euros, les frais de livraison sont offerts. Être très précis sur ce type de frais. Si vous vous adressez à des clients professionnels, vous avez le droit de mentionner dans vos conditions générales de vente, et si vous faites le choix de prévoir des conditions générales de vente en B2B, les délais de paiement et les pénalités de retard. Attention, souvent sur des CGV, des modèles de CGV type qu'on trouve sur Internet, on voit ces dispositions relatives aux délais de paiement et aux pénalités de retard qui s'appliquent à tout le monde. Si vous êtes vis-à-vis d'un client consommateur, c'est des dispositions qui sont parfaitement abusives. Donc pensez-y aussi. Dans vos conditions générales de vente ou dans un onglet distinct, si vous proposez la vente de produits, vous devez indiquer quelle est votre politique de livraison. La zone de livraison, quel est le territoire sur lequel on peut être livré. Les délais d'expédition, qui sont les délais en fait pour préparer la commande et qui sont distincts des frais des délais et des frais de livraison, pour le coup. Ensuite, on a les modalités de livraison. Donc, selon vos produits, ça peut être assez standard. On est sur Chronopost, les relais, etc. Mais je reprends l'exemple des produits alimentaires. Par exemple, si vous êtes dans la livraison de produits frais, les modalités de livraison sont extrêmement importantes. Comment vous faites si vous devez livrer, enfin la livraison est prévue à telle heure, le client n'est pas là. Vous pouvez pas laisser des produits frais dans sa boîte aux lettres ou au bureau de poste. Donc selon vos produits, vous allez avoir des contraintes supplémentaires qui vont effectivement s'appliquer et qui doivent être visibles dans vos conditions générales de vente. Et en cas de... Les dispositions relatives aux problèmes de livraison aussi sont importantes. Ce qu'on retrouve souvent, nous, quand on revoit ou qu'on consolide les conditions générales de vente de nos clients, c'est... Donc, je suis cybermarchand, je vends à des clients consommateurs et j'explique qu'en cas de problème de livraison, je ne suis pas du tout responsable, c'est la responsabilité du transporteur. Là, lorsque vous vendez à des clients consommateurs, c'est une clause qui est interdite, abusive. En tant qu'e-commerçant, vous êtes responsable de la livraison qui fait partie à part entière de la transaction. Maintenant, s'il y a un souci, effectivement, vous pourrez vous retourner après contre votre transporteur, qui est le prestataire de service qui s'occupe effectivement de la livraison. Mais en aucun cas, vous pouvez indiquer à votre client consommateur que vous n'êtes pas responsable de cette partie finale de la transaction. Autre point qui est souvent oublié dans les conditions générales de vente, c'est le fameux médiateur de la consommation. Alors maintenant, on le retrouve un peu plus souvent, mais c'est depuis 2016 que ce processus de médiation est obligatoire pour les litiges vis-à-vis de clients consommateurs. Concrètement, vous êtes e-commerçant, vous devez vous inscrire auprès d'un centre de médiation, type FEVA, de Médicis ou autre. Et une fois que vous êtes inscrit, et au passage, souvent l'inscription est payante, vous pourrez indiquer ces coordonnées au sein de vos CGV. En cas de litige, si vous n'avez pas réussi à régler le problème directement avec votre client consommateur, il aura la possibilité de saisir ce médiateur de la consommation. Pareil, ça doit être gratuit pour le consommateur et vous, e-commerçant, vous devez y penser et vous inscrire auprès d'un des centres de médiation. Quelques points encore sur la partie CGV, tout ce qui est relatif aux garanties qui doivent être indiquées au sein de vos CGV. Tout d'abord, la garantie légale de conformité. Qu'est-ce que c'est ? Je suis client, je commande sur votre site internet, je reçois un produit qui ne correspond pas à la chose que j'avais commandée. Ça marche uniquement pour les clients consommateurs dans le cadre de vos relations B2C. Mais dans ce cas-là, le client a 2 ans pour faire jouer cette garantie légale de conformité. Et ces dispositions qui doivent être indiquées dans vos CGV, donc relatives à la garantie légale, en reproduisant aussi les dispositions du Code de la consommation, doivent être dans un encadré. Alors, on a vraiment un arrêté qui explique que ces dispositions doivent être encadrées. Et j'ai déjà vu un PV de la DGCCRF indiquer que les dispositions n'étaient pas encadrées. Donc, soyez vigilants, pareil. Les dispositions relatives aux garanties, on les encadre. Pareil pour la partie garantie légale des vices cachés. Cette fois-ci, elle s'applique que vous soyez vis-à-vis d'un client consommateur ou d'un client professionnel, à l'exception peut-être des clients professionnels qui sont de la même spécialité que vous, ou dans certains cas, on peut exclure ce type de garantie, mais encore, ça reste assez limité. Là, c'est une autre situation. J'ai bien reçu le produit que j'ai commandé sur votre site internet, mais par contre, il y a un vice dont je n'ai pas pu prendre connaissance au moment de la commande. Pareil, le client peut faire jouer sa garantie des vices cachés. La politique de rétractation, donc on a vu tout à l'heure, avec toutes les informations donc, relatives aux modalités d'exercice, aux exceptions, aux délais, aux formulaires de rétractation. Vous pouvez également les reproduire au sein de vos CGV. Soit vous avez vraiment un onglet en bas de page qui est pour les CGV au sein duquel vous avez toutes les dispositions qu'on a vues, plus la politique de livraison, plus la politique de rétractation. Soit dans le footer, vous avez des onglets distincts, CGV, politique de rétractation, politique de livraison. L'idée, c'est que le client puisse prendre connaissance de ces informations assez facilement. Donc, si vos CGV sont très longues, il vaut mieux reproduire cette partie rétractation dans un onglet bien distinct. Pour finir, donc ça paraît très contraignant et on en a bien conscience quand on dit à tout le monde de revoir ses conditions générales de vente. Au-delà du fait que ça donne confiance aux clients Parce que oui, quand vous et moi, on va passer une commande sur un site où il y a des CGV, où on voit que ça semble en tout cas respecter la réglementation, on est plus en confiance et plus à même de commander. Donc ça suscite quand même in fine de la croissance. Vous avez quand même à avoir en tête les actions de la DGCCRF qui contrôle assez régulièrement les activités e-commerce et notamment les sites internet. C'est très facile hein, de passer soit sans passer de commande pour un agent de la DGCCRF, soit en passant une fausse commande, de voir directement qu'il manque les CGV, qu'on n'a pas renoncé à son droit de rétractation. Donc là, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous recevez une injonction de la DGCCRF, mettez-vous directement en conformité. Et d'autant plus que la DGCCRF a un protocole d'accord avec la CNIL. Alors, j'ai promis de ne pas parler du RGPD ce matin, mais quand même, malheureusement, on voit que les contrôles de la DGCCRF sont souvent suivis d'un contrôle CNIL parce que ces deux autorités coopèrent pleinement dans ces contrôles. Voilà sur la partie optimisation de vos conditions générales de vente. Est-ce que vous avez des questions? Vous pourrez aussi me les poser tout à l'heure, comme vous préférez. Oui, alors je vais essayer d'être rapide. Au-delà de la conformité macro, on va dire, de vos différentes sociétés en tant que telles, donc maintenant vous n'avez plus de formalités à faire auprès de la CNIL, mais vous devez, c'est une logique de responsabilisation, donc vous devez avoir prévu votre registre, vos différents accords avec vos sous-traitants, etc., et être capable en cas de contrôle de sortir le registre et de montrer que vous êtes conforme. Si on se concentre maintenant sur le RGPD pour vos sites internet, déjà, c'est vrai que même si au niveau macro et de votre société, vous n'êtes pas conforme, même si je ne devrais pas dire ça, mais ce n'est pas grave, mettez au moins votre site en conformité parce que c'est la partie front et c'est ce qu'on voit tout de suite. Donc si, par hasard, la CNIL se dit « Tiens, je suis dans ce secteur-là, je vais contrôler tous les acteurs des assurances, je vais sur le site internet, je vois déjà qu'il n'y a pas de politique de confidentialité, que j'ai une case, par exemple, pour recevoir la newsletter, vous avez l'obligation de recueillir le consentement express des clients consommateurs. Si on est sur, donc c'est l'opt-in, si on voit directement sur la page d'accueil une case en opt-out, c'est-à-dire que vous devez cliquer pour ne pas recevoir, c'est déjà un indice de plus. Si sous les formulaires de contact, il n'y a aucune mention informatique et liberté, plus on avance dans ce faisceau d'indices et plus on se dit qu'effectivement, la société qui édite le site ne sera pas conforme. Donc, à minima, sur le site internet, c'est les mentions informatiques et libertés sous les formulaires. Une politique de confidentialité qui est bien distincte de toutes les CGV et autres et qui explique quelles données vous collectez, combien de temps vous les conservez, à qui vous les transmettez, pourquoi vous les collectez. Et déjà, sur le site internet, ce sera pas mal.